vous appelez comment?
Je m'appelle Nour.
Vous avez quel âge?
J'ai 14 ans.
Vous êtes née ici?
Non, je suis née en Italie.
En Italie. Vous partez de temps en temps au Maroc?
Chaque année, en
chaque
vacances.
Année. Vous aimez le Maroc?
J'adore le Maroc.
Qu'est-ce que vous aimez au Maroc?
La plage, la famille, la météo.
Et quand vous partez au Maroc, comment les autres vous voient là-bas? Comment les Marocains vous voient?
Une étrangère.
Comme une étrangère? Vous préférez rester ici?
Non.
Vous préférez quand même le Maroc? Est-ce qu'il y a une expression, un mot, un dicton que vous aimez au Maroc? Dans le langage marocain?
Le mouche tabat al qalbir.
Oui,
ça c'est dit pour si quelqu'un vous aime pas et tout.
Oui, ça veut dire bon
par. Ouais, voilà, par, c'est pas un problème.
D'accord, merci beaucoup.
Mira Zakaria.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis étudiant.
Vous êtes né ici?
Je suis né ici.
Et vos parents sont nés ici?
Non, mes parents sont nés au Maroc.
Ils sont arrivés ici en quelle année?
Ils sont arrivés ici en 1996.
Vous descendez de temps en temps au Maroc?
Oui, bien sûr. Chaque été, je vais au Maroc, bien sûr.
Vous bien aimez
sûr.
Le Maroc?
Bien sûr, c'est les racines.
Et vous vous sentez comment là-bas?
Au Maroc?
Oui.
Comme chez moi.
Ah,
comme
ouais.
chez moi, bien sûr.
Vous avez une anecdote ou quelque chose à nous raconter?
Au Maroc? Ouais. C'est un endroit quand même où chaque été j'y vais. C'est les racines, c'est les grands-parents, c'est la famille, donc c'est que des bons souvenirs.
Il y a une phrase que vous aimez dans le langage marocain?
Il y a un proverbe marocain qui dit, que j'aime particulièrement, c'est le chameau ne voit pas sa bosse, mais il rigole lorsqu'il voit la bosse de son frère.
Et vous pouvez le dire en arabe aussi?
Ah, en arabe, je ne sais pas comment le dire, je parle arabe, mais ce proverbe-là, je ne sais pas le dire en arabe.
Ah oui, vous savez parler arabe?
Oui, bien sûr, non, en arabe. Radio
Prima. Bienvenue sur Radio Prima, nous sommes le mardi 30 juillet, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, une émission consacrée à la fête du trône, la fête nationale marocaine, et cette émission est réalisée en direct du domaine touristique de Bligny, et plus précisément du musée du Puy-Marie, un magnifique musée que je vous invite à visiter durant le mois d'août, voire même le mois de septembre. Il est ouvert quasiment tous les jours. Bligny qui nous offre son hospitalité, Bligny qui nous offre la possibilité donc de faire cette émission, et autour de ce studio, eh bien, nous avons nos invités. Je vais vite m'empresser de vous les présenter. Bonjour monsieur le consul du Maroc à Liège, monsieur Abidine, bonjour.
Bonjour.
Dominique Peta, bonjour. Consul honoraire d'Italie à Liège, bonjour monsieur Peta.
Bonjour Melka.
Monsieur Jacques Krull, directeur du domaine de Bligny, bonjour Jacques Krull.
Bonjour Melka.
Avant de donner la parole à monsieur le consul, expliquez-nous, nous sommes où ici?
Alors ici nous sommes dans le bâtiment du Puy-Marie. Le Puy-Marie, c'est un des bâtiments miniers les plus anciens qu'on ait pu conserver. C'est un lieu où on a extrait le charbon depuis 1849, où on retrouve une machinerie qui est une machinerie du 19e siècle, pas tout à fait des débuts, mais en tout cas installée ici depuis 1875, ça on en est certain, et elle provenait du charbonnage voisin de Cherat, donc on ignore exactement son âge ou sa date de fabrication, mais en tout cas 19e siècle certainement.
Contrairement à d'autres mines qui ont fermé, nous ici à Bligny, on a la possibilité de descendre à combien de mètres pour les visiteurs?
Alors ça c'est pour l'autre puits, c'est pour le puits numéro 1, où là on peut descendre toujours jusqu'à 60 mètres sous terre. Alors vous allez me dire 60 mètres c'est peut-être pas très profond, mais c'est exactement la même chose à 60 mètres ou à 600, à part peut-être quelques degrés de température de différence. Et on peut le faire, pourquoi? Parce qu'à Bligny, nous avions des couches de charbon qui allaient jusqu'au niveau du sol, qui affleurait dans la campagne avoisinante. C'est la dernière mine du bassin de Liège, vers le nord-est, et toutes les couches de charbon, donc s'annihilent dans la campagne, et ça permet déjà à 30 ou à 60 mètres d'avoir des galeries qui sont des galeries de mines authentiques dans les couches de charbon.
Merci en tout cas de nous accueillir ici, parce que cette émission est une émission spéciale à l'occasion du 60e anniversaire des accords belgo-marocains. Je voudrais poser une question à Dominique Peta. Monsieur Dominique Peta, consul honoraire d'Italie de Liège. Là, les Italiens, ils en sont à leur 75e anniversaire, accord de 1946.
Mathématiquement, c'est très bien, Melchior.
Ben, disons que j'ai une bonne équipe, Latifa, qui a bien préparé l'émission. Donc,
disons que l'immigration italienne est arrivée ici après la guerre. Donc, ça veut dire parce que 20 ans avant l'immigration marocaine, je pense que dans des conditions peut-être beaucoup plus dures que l'immigration marocaine, pour laquelle, bien sûr, notre communauté, comme tu le sais, tout le monde le sait, a payé de lourds tributs dans ce travail de la mine, mais qui en même temps a fait, je veux dire, reconnaître notre communauté italienne dans, au niveau belge, bien sûr, mais au niveau international aussi, du sérieux, des ouvriers, des personnes qui sont arrivées, puisque bien sûr, en Italie, après la guerre, ben, il y avait des grands problèmes financiers, de pauvreté. Et donc, grâce à la Belgique, c'est vrai qu'elle nous a accueillis et quelque part a donné de la main-d'œuvre à la communauté italienne.
Alors, tout au long de cette émission, nous allons faire le parallèle entre les accords italiens et les accords marocains. On va peut-être préciser que c'est en 1956, avec la catastrophe de Marcinelle, que tout s'est déclenché, l'Italie annulant l'apport de main-d'œuvre italienne ici en Belgique. La Belgique s'est retournée vers des pays comme la Turquie, l'Espagne, le Maroc. Et puis voilà, 1964, monsieur le consul du Maroc, bonjour, rebonjour.
Rebonjour.
Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Ben, bon anniversaire pour vos 60 ans d'accord belgo-marocain. Vous n'étiez pas encore né, je pense, quand lorsque les accords...
Effectivement. Tout d'abord, merci, monsieur Melchior, de me donner l'opportunité de venir m'exprimer sur Radio Prima. Comme vous le dites, le Maroc a signé un accord sur la main-d'œuvre, sur l'occupation des travailleurs marocains. Ça a été signé le 17 février 1964. Et cet accord, il a joué un rôle très très important. Il y avait eu bien évidemment des Marocains qui étaient venus en Belgique avant cette date, mais on pourrait dire que cet accord a été un peu le catalyseur. C'est lui qui a un petit peu boosté les flux migratoires de l'époque. Et pour, si vous voulez bien, parler peut-être un petit peu de cette vocation historique.
Moi, je vous propose, si vous le souhaitez, nous allons faire une première pause musicale.
Avec plaisir.
On va tous se lever. Je vais demander à nos auditeurs qui nous écoutent de se lever, car nous allons procéder aux hymnes nationaux. On va commencer par l'hymne national marocain. Puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de cette émission spéciale 60e anniversaire accord belgo-marocain. Voici l'hymne national marocain.
Radio Prima, la radio au cœur de vos racines.
Radio Prima.
Bonjour, quel est votre nom et votre âge ?
Oui, Leïla, 37 ans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes venue ici du Maroc ?
Oui, au début c'était un petit peu difficile parce que c'est un environnement totalement différent avec mon pays. La culture, la langue, tout.
Quand vous retournez là-bas, quel est le regard qu'on porte sur vous ? Est-ce que ça a changé ou c'est toujours pareil ?
Non, pas du tout. Je me sens très à l'aise, dans mon pays.
Vous pouvez nous dire ce que vous aimez retrouver quand vous retournez chez vous au Maroc ?
Le soleil, ma famille, mes amis, tout. La nourriture aussi.
Et alors, est-ce que vous avez une expression qu'on entend souvent ou que vous aimez bien marocaine ?
Oui, ils m'ont dit bienvenue chez vous. On dit au Maroc marhaba bik bladek. Ça va ?
Merci.
Ça va ?
Radio Prima.
Retour à ce studio particulier en direct du Puy-Marie à Bligny avec nos invités, Jacques Krull, directeur du domaine de Bligny. Nous avons Dominique Petta, consul honoraire d'Italie à Liège. Monsieur Dominique Petta, sourire aux lèvres, c'est parfait. Monsieur le consul du Maroc, monsieur Abidine. Monsieur Abidine, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, pour nos auditeurs, expliquer un petit peu ce qu'est la fête du trône au Maroc?
Merci encore une fois pour l'invitation. La fête du trône, un événement très très important. pour les Marocains, où qu'ils se trouvent, que ce soit au Maroc ou à l'extérieur. Elle symbolise l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a pris le trône le 30 juillet 1999. Donc, en cette année 2024, nous célébrons le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi. Et cette fête du trône, elle est très symbolique et elle est marquée par des cérémonies aussi bien officielles qu'au populaire au Maroc, les grandes villes du Maroc et partout. Et au-delà même du Maroc, la communauté marocaine à l'étranger, elle tient à célébrer également la fête du trône. Et juste au moment même, je donne ce soir une réception à Liège, bien évidemment en présence des membres de la communauté marocaine, des autorités belges et différents acteurs du consulaire. Mon ami Dominique Péta sera également présent. Le mot d'ordre, c'est un peu la célébration de la joie et l'allégresse, comme cela se fait au Maroc.
Dominique Péta, monsieur le consul honoraire, est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence entre un consul permanent et un consul honoraire ?
Voilà, c'est un rôle plutôt honorifique, mais voilà, ça dépend un petit peu des personnes, comment ils peuvent prendre ce rôle à cœur ou pas. Moi, en tout cas, je l'ai pris à cœur depuis 12 ans. Et donc, je gère un peu mon consulat, un peu comme une entreprise, parce que je suis avant tout un chef d'entreprise. Donc, je ne me contente pas uniquement de faire de la figuration. Donc, j'aime bien aussi participer à la vie de la collectivité italienne, qui, faut le rappeler, il y a 62 500 concitoyens quand même italiens encore à Liège, passeport italien. Et donc, voilà. J'ai la chance d'avoir beaucoup de monde autour de moi, de la communauté italienne, notamment au consulat. J'ai 8 dames qui me soutiennent et qui font des permanences, 3 jours semaine, comme je le disais. Bon, la différence, elle est là, quoi. C'est un titre honorifique et bien sûr, un vrai diplomate, un vrai diplomate du royaume. Quoi.
Exactement. Monsieur le consul du Maroc, monsieur Abidine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le rôle du consulat marocain ? Comment faites-vous pour aider les Marocains qui vivent en Belgique? Et d'abord, quels Marocains? Ce sont des Marocains en province de Liège ou bien vous avez étendu votre territoire?
Avant toute chose, je voudrais simplement rappeler que mon ami Dominique Pita avait dit que consul honoraire à titre honorifique, mais également bénévole. Et ça, il faut simplement le souligner, c'est un engagement de sa part pour représenter mieux l'Italie. Et pour revenir au consulat général, je suis un consul général de carrière. J'ai été nommé, ça fait maintenant presque 3 années. Et les circonscriptions consulaires du consulat général, c'est toute la région wallonne. Et nous avons également le Grand-Duché de Luxembourg. Donc ce que vous pouvez imaginer, c'est une grande communauté. Et au sein du consulat, nous avons une trentaine de personnes qui y travaillent. Et il y a une partie qui est diplomate, qui vient du Maroc, et une autre partie des agents permanents qui travaillent au consulat général. Et bien évidemment, nous sommes structurés de telle sorte que nous essayons bien évidemment de répondre aux besoins de notre communauté, de défendre ses intérêts, répondre à leurs besoins. De manière pratiquement administrative, c'est tout ce qui concerne un peu les documents officiels, les cartes d'identité, établissement, renouvellement, les passeports, les attestations, les procurations. Nous avons différents services notariels également. Un Marocain souhaiterait acheter au
Et moi qui suis un voyageur et qui adore le Maroc, si je veux avoir un peu plus d'informations sur des documents à présenter lorsque je passe les frontières, est-ce que je peux me rendre au consulat du Maroc pour avoir ces informations et où?
Effectivement, donc vous pouvez vous rendre au consulat général, on est là pour bien évidemment informer sur le Maroc et sur les opportunités qu'offre donc le Maroc. Et à titre d'exemple, au niveau des arrivées au Maroc, la Belgique se place en 3e position avec 1 million de nuitées, ce qui est vraiment très très éloquent après la France et l'Espagne. Donc on a un service bien évidemment qui informe sur le tourisme au Maroc. Et je voudrais simplement rajouter qu'il y a aussi un office national marocain du tourisme qui se trouve à Bruxelles et qui bien évidemment aussi joue ce rôle.
On va donner l'adresse du consulat du Maroc à Liège.
42 boulevard de la Sauvenière.
Une petite page musicale et puis nous rejoindrons bien une de nos équipes qui a rencontré le professeur Martiniello qui va nous parler d'ici quelques instants bien de la différence, de la similitude entre l'intégration italienne et marocaine suite aux différents accords, celui de 1946 et celui de 1964.
Salam. Pouvez-vous nous expliquer les accords de main-d'œuvre que la Belgique a conclus d'une part avec l'Italie et d'autre part avec le Maroc ?
Le professeur Martiniello.
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des problèmes économiques importants dans beaucoup de pays, dont la Belgique. La Belgique dispose de charbon dans son sous-sol. Et donc, le gouvernement de l'époque lance la bataille du charbon pour relancer l'industrie belge. Le problème, c'est qu'il manque une main-d'œuvre locale. Beaucoup de Belges ont disparu pendant la guerre. Ceux qui seraient prêts à recommencer à travailler trouvent qu'ils ne sont pas assez payés, que c'est trop dangereux, puisque la profession de mineur a été dévalorisée. Et donc, le gouvernement belge et les syndicats et le patronat, finalement, vont discuter ensemble et vont trouver comme solution avoir recours à une main-d'œuvre étrangère. Donc c'est un peu à contre-cœur, on va dire. C'est pas qu'ils ont envie de faire venir des travailleurs étrangers, mais c'est qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions. Et donc la Belgique va d'abord contacter le gouvernement italien et passer un accord avec le gouvernement italien qui prévoit que l'Italie enverra en Belgique des contingents de travailleurs pour les charbonnages pour une durée déterminée et puis ils devaient en principe retourner chez eux. Ça ne s'est pas fait, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Et en 1956, il y a la catastrophe de Marcinelle dans laquelle décèdent plus de 200 mineurs dont la moitié est d'Italiens. Et donc à partir de ce moment-là, le gouvernement italien décide de ne plus envoyer des travailleurs en Belgique. Et donc la Belgique se trouve dans la même situation de problème. Elle a besoin de travailleurs, l'Italie n'en fournit plus, et donc elle va se tourner vers d'autres pays, dont le Maroc. Et donc on va signer aussi un accord avec le gouvernement marocain qui prévoit l'envoi de travailleurs pour les charbonnages au départ. Alors ce qui est intéressant, et ça on ne le dit pas toujours, c'est que dès le début, donc déjà en 1946, on prévoit en quelque sorte, sans trop le dire, le regroupement familial. C'est-à-dire que d'un côté, on dit aux gens, à la population belge, ils viennent nous aider pendant quelques années, puis ils vont rentrer chez eux, mais en même temps, on accepte que les familles se reforment, se réunissent. Et donc, ce sera encore plus clair pour le Maroc, puisque dans l'accord avec le Maroc, qui est passé quelques années plus tard, on va dire carrément que après 3 mois de travail, le travailleur marocain peut faire venir sa famille. D'un côté, on dit qu'ils doivent repartir, mais d'un autre côté, on dit que si la famille vient, c'est qu'ils vont rester. Au départ, ce sont des accords qui concernent une main-d'œuvre dont la Belgique a besoin, mais derrière, il y a une préoccupation aussi démographique. puisque la Wallonie est en déclin démographique, et on pense que les migrants vont en quelque sorte permettre à la Wallonie de se maintenir au niveau démographique, voire même de rajeunir la population. Donc ce sont des accords qui ont un peu une philosophie semblable en fait. Sans la catastrophe de Maxinelle, il n'est pas dit qu'il y aurait eu un accord avec le Maroc. On ne le saura jamais.
Et si on veut faire une comparaison entre l'immigration italienne et marocaine en Belgique, quels sont les points communs et les différences en termes d'intégration sociale, économique et culturelle?
Le grand point commun, qu'au départ, tous les deux sont considérés comme des personnes qui viennent aider l'économie belge, en fait, hein, et donc à un certain niveau de l'économie, c'est-à-dire dans le secteur extractif, les mines, les carrières, et puis ce sera dans d'autres secteurs, mais c'est une main-d'œuvre peu qualifiée. Notamment à Bruxelles, le métro va être construit avec beaucoup de travailleurs marocains, mais ce sont des travaux lourds, dangereux, peu payés. Et donc les Italiens qui arrivaient en 1946, les Marocains qui arriveront dans les années 60, sont d'abord prévus pour remplir ces postes-là dans l'économie, c'est-à-dire les travaux lourds, peu payés et dangereux. Donc ça, c'est un point commun. Et alors, bon, certains disent, et on entend ça souvent maintenant, oui, mais avec les Italiens, ça s'est bien passé, ils se sont intégrés facilement, mais avec les Marocains, ça a été plus difficile, et on dit souvent parce que les Marocains sont musulmans. Ça n'a pas de sens de dire ça, parce qu'au début, lorsque les Italiens arrivaient, bien que beaucoup d'Italiens, pas tous, étaient catholiques, l'Église belge ne voyait pas d'un bon œil ces catholiques-là, puisqu'ils les voyaient comme des espèces de sectes qui adorent les saints et tout ça. Ils n'avaient pas la même vision du catholicisme qu'en Belgique. Et donc, on disait pour les Italiens qu'ils étaient trop différents, que ça allait être dangereux. Les mêmes arguments ont été repris après pour les Marocains. Et pourtant, les Marocains qui sont arrivés ne sont pas devenus musulmans en Belgique. On le savait avant qu'ils étaient musulmans, hein. Ce n'est que plus tard que cette question a été mise en avant, et beaucoup disent que, et je ne suis pas d'accord avec ça, que les Italiens se sont bien intégrés parce qu'ils étaient proches de nous culturellement et que les Marocains se sont moins bien intégrés parce qu'ils étaient trop différents, notamment à cause de la religion. En fait, ça ne tient pas du tout debout, cette question-là. Donc on voit qu'il y a eu, tant pour les Italiens que pour les Marocains que pour d'autres populations qui sont arrivées, les gens se sont intégrés sur le marché du travail. Les gens ont eu des difficultés à s'intégrer, notamment dans le logement, puisque c'est pas facile quand on est étranger avec des moyens limités de trouver un logement. Les jeunes ont eu des difficultés à l'école, pas parce qu'ils étaient plus bêtes que les autres, mais parce qu'ils étaient traités aussi différemment, avec des phénomènes de discrimination qui ont été étudiés beaucoup plus tard. Donc en fait, il y a beaucoup de ressemblances dans les mécanismes entre les différentes migrations, et je ne pense pas que ce soit le facteur culturel ou religieux qui ait créé des grandes difficultés. Et d'ailleurs, des historiens ont fait des travaux, et si vous vous intéressez à ce qu'on disait sur les Italiens dans les années 40 et ce qu'on disait sur les Marocains dans les années 60, vous pouvez juste changer les mots « italien » par « marocain », mais c'est exactement les mêmes arguments qui sont repris. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que, évidemment, tant les Marocains que les Italiens ont souffert de tous les problèmes économiques, puisqu'ils étaient concentrés dans les secteurs de l'industrie qui ont eu beaucoup de difficultés. Les charbonnages ont disparu, la sidérurgie a beaucoup de problèmes, la construction est un cas un peu particulier, et donc, lorsque les crises arrivent, ce sont souvent ces personnes qui sont en première ligne qui souffrent le plus. Mais malgré tout, on voit que dans les deux populations, il y a des personnes qui ont acquis des postes dans différents secteurs, qui sont devenus politiciens, qui sont devenus artistes, qui sont devenus entrepreneurs, qui sont devenus tout ce que vous voulez, médecins, etc. Et donc, je dirais que ce qui est le plus important pour voir, pour pouvoir établir cette comparaison, c'est que le monde a changé. Et donc, spécialement à partir des années 80, déjà peut-être un peu avant, les Italiens ne sont plus traités comme des immigrés, mais comme des citoyens de l'Union européenne, ce que ne sont pas les Marocains. Et donc ça fait une différence importante qui a déjà été inscrite dans le droit européen en 1968, donc très tôt, mais qui va manifester ses effets plus tard. Et donc on arrive aujourd'hui à une situation dans laquelle ceux qu'on appelle les Italiens, ceux qu'on appelle les Marocains, la majorité, ils ont la nationalité belge.
pour une meilleure intégration aujourd'hui. Quelles leçons peut-on tirer de ces deux expériences d'immigration ?
Alors, c'est toujours difficile de tirer les leçons. Ce qui est clair, c'est que la Belgique n'a pas pensé suffisamment bien, n'avait pas un projet clair pour faciliter la participation de ces différentes populations à la société. Donc, jusque très tard, il n'y avait pas de politique d'intégration. Jusque dans les années 80, on réagit comme si les migrants allaient retourner, en fait. Pourtant, on sait que seule une partie d'entre eux vont partir, les autres vont rester. Et donc, peut-être qu'il faudrait imaginer le futur avec l'immigration. Pas considérer que l'immigration, c'est quelque chose qui est de passage, mais l'immigration est là pour rester. Et donc, mettre en place, comme on l'a fait par après, des dispositifs politiques qui permettent aux personnes d'avoir des possibilités de s'insérer à tous les niveaux de la société. Et donc aujourd'hui, ça passe aussi par une lutte plus sérieuse contre toutes les formes de discrimination. Et là, on a des dispositifs juridiques qui sont importants, mais peut-être que dans la pratique, il y a beaucoup de choses à encore améliorer. Et donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, on ne peut pas demander aux migrations qui sont arrivées plus tard. On ne peut pas leur dire « faites comme les Italiens » ou « faites comme les Marocains » parce que le monde n'est plus le même, le monde a changé. Mais je pense que la Belgique, comme les autres pays européens, a du mal encore à accepter totalement le fait que la Belgique est un pays d'immigration et que les personnes sont là et changent la société et eux-mêmes changent à cause de la société. Hein. Et donc on voit que maintenant, si vous êtes... si vous comparez des Marocains de Bruxelles avec des Marocains de Liège, oui, ils sont Marocains, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ceux de Liège sont très liégeois et ceux de Bruxelles, quelque part, sont très bruxellois. Et donc, je pense qu'il faut... On n'a pas de ceux qui font croire que les choses pourraient changer, se trompent. Donc, nos sociétés ont toujours été construites par les migrations, elles continueront à l'être. Et donc, il faut peut-être avoir un esprit plus ouvert et mettre en place des politiques qui permettent, je dirais, à toutes les personnes d'être dans des conditions de donner et de vivre dans cette société avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et on n'en est pas encore tout à fait là aujourd'hui. Et on en est encore moins là dans notre voisin, la France, si le vote va dans le sens qu'on redoute.
خلاني حتى والفتو
Bienvenue sur Radio Prima, émission spéciale sur le 60e anniversaire des accords entre la Belgique et le Maroc. On ne pouvait pas être autre part qu'à Bligny pour parler de l'histoire, l'histoire de l'immigration, l'histoire du travail, l'histoire de la prospérité aussi, puisque Bligny a apporté pas mal d'avenir à certaines personnes qui sont fils de mineurs et qui sont aujourd'hui indépendants, ils sont peut-être professeurs, ils sont médecins. Jacques Krull, vous, ce poids de l'histoire, ça fait combien d'années que vous êtes à Bligny, en tout cas comme directeur de ce beau domaine?
Bon, je suis devenu directeur en 1993, donc ça fait 31 ans maintenant. Et ça fait quelques années de plus que je suis ici, puisque je suis arrivé en 1988. Donc je n'ai pas connu Bligny en activité, la mine a fermé en 1980. Mais en tout cas, on pourra bientôt me mettre au musée, je commence à avoir le nombre d'années suffisant.
Enfin, l'avantage, c'est que vous n'avez pas trop respiré poussière de charbon.
Tout à fait, mais là, ça c'est clair que c'est le drame de la mine, hein. C'est la silicose qui était la maladie des mineurs et une maladie malheureusement irréversible qu'on a mis des années et des années à éradiquer. 1964 est une année importante d'ailleurs à ce niveau-là, puisque c'est à partir de 1964 qu'on a imposé de pulvériser de l'eau sur les taillis de charbon et au moment de l'extraction, et qu'on a pu, par ce simple moyen qu'on a mis 40 ans à trouver malheureusement, qu'on a pu éradiquer cette maladie. Et donc les mineurs qui ont commencé à travailler après 1964 ont en général été préservés de cette silicose. C'était pas la seule difficulté dans le fond, bien entendu, mais c'était quand même l'élément le plus marquant et le plus invalidant dans ce travail minier.
Dominique Peta, consul honoraire de Liège, est avec nous. Monsieur Peta, vous êtes dans le monde des affaires. Quels souvenirs vous avez, vous, de votre jeunesse lorsque, je ne sais pas, vous êtes arrivé en Belgique ou bien vous êtes né en Belgique?
Non, moi j'avais 10 ans quand je suis arrivé en Belgique.
Vous aviez 10 ans, oui.
Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai un oncle qui est mort de la silicose, donc moi la maladie est vraiment de mineur. Et il est décédé très jeune d'ailleurs, je pense qu'il devait avoir 56 ans. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'était quelque chose de défrayant, parce que chaque fois que j'allais chez lui, il était assis dans son fauteuil et il était en permanence, il toussait en permanence. Et disons franchement, il a vécu les quelques dernières années, ça a été très très dur, donc c'était pas très gai à voir, quoi. C'était un peu la rançon un peu de la mine aux yeux de beaucoup d'immigrés, et surtout de l'Italie, qui est arrivé un des premiers pays ici. Ce que je voulais dire aussi, Melchior, c'est que la province de Liège peut quand même s'orgueillir d'avoir, tout à l'heure, on le disait, plus ou moins 47 consuls honoraires, mais le seul consulat général ici à Liège du Maroc. Donc ça, c'est quelque chose quand même, c'est une fierté à Liège que le Royaume du Maroc conserve toujours un consulat général après les fermetures. Je pense que après la France, ça a été l'Italie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul consulat général à Liège, quoi. C'est assez... Il faut le souligner, parce que c'est quelque chose pour la communauté marocaine, justement, c'est très important de garder cette attache aussi, d'avoir cette attache consulaire.
Oui. Merci Dominique Peta, parce que justement, je ne sais pas si vous le sentiez, mais ça allait justement faire partie de la question que j'allais poser. Bientôt, vous allez pouvoir être animateur à Radio Prima, avec tout le plaisir que l'on a. Monsieur le consul du Maroc à Médine, on vient d'où et comment devient-on consul du Maroc? Des études, des pays à traverser, vous venez d'où avant de venir ici à Liège?
Je suis né à Casablanca et ça fait maintenant 30 ans que je vis à Rabat, que j'ai fait mes études supérieures à l'École nationale d'administration publique à Rabat et par la suite donc j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères, voilà, pratiquement maintenant 28 ans, donc je suis un diplomate de carrière. et j'ai travaillé dans pratiquement beaucoup de pays, principalement en Europe. J'étais une seule fois en Afrique subsaharienne et dans les 5-6 postes que j'ai faits, c'était en Europe, aux Pays-Bas. Avant de venir ici, j'étais au ministère des Affaires étrangères et puis par la suite, j'ai eu cette opportunité d'être nommé consul général. Et il n'y a pas vraiment de critères, où, c'est un petit peu l'expérience qui joue également, les compétences également. Et je suis vraiment très content d'avoir été nommé ici en Belgique, en région Wallonne, que je connaissais avant de venir. Et j'avais aussi des amis diplomates belges, donc j'appréciais ce pays et c'était... Effectivement, un de mes choix, c'est de venir en Belgique et ça a été réalisé. Et je peux dire que les relations se passent au mieux avec les autorités locales et un environnement très important. Je voudrais aussi remercier mon ami Dominique d'avoir mis l'accent sur le fait que le consulat général du Maroc est le seul consulat de carrière qui est ici en province de Liège.
Je sens beaucoup de diplomatie dans tout ça.
Non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur Dominique, vous aurez en témoigné. Au-delà du fait d'être collègue, nous avons une amitié vraiment très proche.
Et puis je vous sens très souriant, monsieur le consul Abidine, consul du Maroc à Liège, parce que ce soir c'est la grande fiesta et vous allez rencontrer vos amis de différents consuls honoraires.
Effectivement, beaucoup de consuls honoraires seront présents avec nous ce soir, les citoyens belges, différents acteurs économiques, les autorités locales, comme je disais, bien évidemment les membres de la communauté marocaine. Nous allons tous nous retrouver pour bien évidemment célébrer ce 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi, la fête du trône, et bien évidemment j'en fais de même lorsqu'il s'agit, bien évidemment, de partager des journées nationales, d'autres collègues,
comme la Giornata Italiana ici.
Exactement, ici j'ai l'occasion de venir ici, d'être ici à Bleni pour partager cette journée importante avec la communauté italienne.
On a démarré cette interview en parlant de mines, en parlant de poussière. Je vous propose d'écouter un reportage réalisé par Latifa. C'est un monsieur, un mineur de 84 ans. C'était interviewé la semaine dernière à Bressou. On écoute ce monsieur qui nous parle un petit peu de sa vie, la manière dont il est arrivé ici à Liège, puisque dans un premier temps, il est descendu dans la mine à Genk. Et là aussi, un regard sur la jeunesse d'aujourd'hui. Nous l'écoutons sur Radio Prima.
Vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez décidé de venir en Belgique pour travailler dans les mines?
Pourquoi? Parce que j'ai mon travail, j'ai cherché travail. C'est à cause de ça. J'ai été travailler dans la mine, mais je suis très content. Même, c'est très difficile, mais les ouvriers qui travaillent dans la mine sont à ce moment-là très contents.
En quelle année vous êtes arrivé ici en Belgique?
64.
Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées juste en arrivant ici?
Pour retrouver le logement, c'est très difficile.
Vous avez travaillé dans le côté flamand?
Vointeschke, c'est la région de Genk.
Comment c'était l'ambiance et les conditions de travail?
L'ambiance de travail, c'est pas... C'est très dur. Parce que tu vas travailler dans la taille, à la mine. Parce qu'il y a deux sortes d'ouvriers dans la mine. Il y a les manœuvres, il y a ouvriers qui travaillent avec la machine, avec le matériel. Ou bien celui-là qui ramasse des matériels. Mais celui qui travaille dans la mine, c'est très difficile.
Vous pouvez nous dire quels étaient les principaux dangers que vous devez affronter tous les jours?
Tous les jours, il y a des dangers à la mine. Comme la guerre. Tout à fait comme la guerre. Tu n'es jamais content, tu fais attention à tout. À tout. Quand on a de la taille, on ne fait pas attention à ça. On commence à travailler, prendre des mains un petit peu courtes. Parce qu'il y a plusieurs personnes en ici. Il y a 15 personnes dans la taille, 15 ou 20 personnes chacun. Ils prennent 20 mètres ou 40 mètres ou 15 mètres. Il prend un match de pécure, comme Chiron. Il faut qu'il pose, il faut que. C'est pas. Tu ne fais pas attention à ça. Tu vas travailler, tu n'as pas d'attention. Tu travailles et c'est tout.
Et comment ça se passait avec les autres mineurs belges ou d'autres nationalités?
Entre les mineurs et l'autre, aucun problème. Les Italiens, les Marocains, les Turcs, aucun problème.
Il y avait une bonne entente. Ouais. Et entre les Marocains, il y avait une solidarité ou...
Bien sûr.
Et pour l'intégration en Belgique, c'était au niveau du travail, au niveau de la vie de tous les jours?
Aucun problème avec ça.
Et en arrivant ici, vous avez laissé de la famille au Maroc?
Oui.
Et votre famille au Maroc, comment elle a vécu ça?
Pas content. La famille de ce moment-là n'est pas contre. Parce que...
Ils n'étaient pas d'accord avec l'immigration.
Ils savaient bien l'histoire des charbons et tout ça, c'est pas facile.
Vous le saviez déjà que vous allez venir ici pour travailler dans les mines. Ils savaient que c'était dangereux.
Ben oui.
Et maintenant, avec du recul, comment voyez-vous votre expérience en tant que mineur en Belgique?
Si je pense à ce moment-là, il y a des choses que vraiment j'aime bien. Même ce travail-là difficile, mais quand même, il y a des fois que je pense que ça a été bien.
Si c'était à refaire?
Ça a été bien.
À l'époque, il n'y avait aucun Marocain ici à Brissot.
Ici, à l'époque, 64 et 63, et même 70. Pas beaucoup de Marocains. Les Marocains ici, ça commençait ici à 80, l'année 80.
Et si vous pouvez donner des conseils aux jeunes maintenant Marocains?
Les jeunes Marocains qui commencent à travailler. Il ne faut pas faire des bêtises. Ce n'est pas comme nous autres. Nous autres, quand on arrive ici, travailler à la maison. Moi, personnellement, Belgique, c'est mon pays. Et j'ai, comme je l'avais dit tantôt, j'en ai 8 enfants. Ils sont tous travaillés. Ils sont tous bien étudiés. Tous travaillés. Aucun qui restait au chômage et traîne dans la rue.
Vous avez 8 enfants et ils ont tous bien étudié. Ils travaillent tous maintenant.
Travaillés.
Vous êtes fiers d'eux?
Bien sûr. 7 filles et un garçon.
Vous avez dit que vous aimez beaucoup la Belgique. Ça fait 60 ans que vous êtes ici. Ben vous vous sentez parfaitement belge.
Ben oui. Ben c'est vrai. C'est la vérité.
Quelles sont vos espérances pour l'avenir entre les relations, l'avenir des relations entre la Belgique et la communauté marocaine?
Entre la Belgique et le Maroc. Pour moi, il n'a rien du tout. Il n'a rien à changer.
Tout est parfait.
Parce que tout est parfait.